C'est très stressé, c'est n'importe quoi.
Moi, je vois pas quand c'est à nous de parler.
On nous entend,
je crois.
Ah oui.
Les mecs, là.
Allô, allô, oui, oui, bonjour, c'est Patrick. Je viens pour le déménagement de ta femme.
C'est sur Skyrock, ça.
Et alors après, ouais, faites bien, bien attention à chaque fois. Concentrez-vous aussi sur la position du micro.
C'est chiant, hein, c'est un métier.
C'est le stress, madame, c'est rien d'autre.
T'inquiète,
c'était très bien.
Mais y a pas de vidéo, voilà.
Ouais, allô, 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 c'est Mehdi.
C'est encore à lui, après je reparle, après c'est à toi.
Comment ça, c'est encore à moi après?
Parce que tu dois présenter deux musiques d'un coup. Comme ça, en fait, t'as rien à faire après.
Ok, donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Donc là, on va faire un silence plateau. Donc on fait bien attention. Puis on va commencer. Je vais vous faire ça.
Le 22 octobre 2001, Radio U poussait son premier cri sur les ondes, officiellement à 14h, mais bon, comme ça marchait pas, bah plutôt 16h, hein. C'était ce temps-là. Entre-temps, bien, se sont succédé quelques milliers de bénévoles, quelques centaines de milliers d'heures de programmes, et Radio U, c'est aujourd'hui plus de 600 personnes au micro chaque année, près de 30 heures de programmes chaque semaine, 4400 titres en playlist et des nouvelles entrées tous les mois, et environ 39 750 kilos de café par an.
20 ans plus tard, et cette fois à l'heure prévue, on vous propose 20 heures de radio pour 20 ans d'antenne sur le 101.fm. Au programme de ce marathon radiophonique, des anciens, ceux qui étaient là au début, des nouveaux, ceux qui sont là maintenant, et des qui ne sont jamais vraiment partis ou qui sont revenus.
Mais aussi des blind tests, des joutes musicales de la mauvaise foi, des archives, le retour d'émissions emblématiques du 101.1 et du live d'un genre un peu spécial. Vous en saurez plus dans quelques heures. Autour de la table, des challengers pour les 20 heures. Et pour les laisser se présenter, une question pour les lancer. Vous étiez où le 22 octobre 2001 ? Pour commencer, Pierre-Louis ?
Ah, c'est moi qui commence. Le 22 octobre 2001, je ne sais pas si c'était déjà les vacances de la Toussaint, mais j'étais probablement en cours en classe de 6e, tout petit 6e, qui est rentré au collège Barbet d'Aurevilliers à Rouen. Voilà où j'étais. Et toi, Antoine ?
Eh ben, pour ma part, moi, j'étais aussi à l'école. Enfin, à l'école, moi, j'étais au lycée. J'étais en première au lycée Sainte-Thérèse à Quimper. Et voilà, c'est ce que je faisais le 22 octobre 2001. Et toi, Morgane ?
Alors, moi, j'avais 12 ans. Donc, je devais faire ma rentrée en 5e, je pense, au collège Max Jacob à Quimper. Et je pense que j'étais très, 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 très loin de m'imaginer qu'un jour, je ferais de la radio.
Un peu comme nous tous autour de cette table.
Il y a des chances, ouais. Et donc, le premier contact avec Radio U, bah pour toi, Morgane, c'était quoi ?
J'ai l'impression d'avoir raconté cette histoire un millier de fois. C'est un pur hasard. J'étais à la fac sur un banc avec une pote, et il y a un gars qui est arrivé, qui s'appelait David, qui a animé une émission qui s'appelait Multiprise. Et il a proposé à ma pote et à moi, en fait, de faire l'émission avec lui. Et le lendemain... j'ai débarqué en studio sans aucune formation, j'avais jamais fait de radio, j'en écoutais pas plus que ça. Et
t'avais jamais écouté Radio U d'ailleurs.
Non, j'avais jamais écouté Radio U, je savais pas ce que c'était, et le lendemain j'étais à l'antenne. Et donc voilà, premier contact dans le bar direct. Ouais. Et toi, Pierre-Louis ?
Et ben moi, premier contact, pareil, en fait, j'avais jamais écouté Radio U, jamais spécialement entendu ce qui passait. Et en fait, je faisais de la web radio dans une MPT Maison pour tous à l'Arthe-Loire. Et un des animateurs m'a dit bon, bah c'est bon, t'as fait assez de web radio, machin, tu veux pas aller taper à la porte d'une vraie radio bande FM. Voilà, Radio U, c'est la première fois que j'en ai entendu parler. J'ai poussé la porte et ça m'a fait fuir la première fois. C'est vrai, ça n'avait pas l'air hyper accueillant. J'étais encore mineur, c'était chiant. Fallait une autorisation parentale, un chèque de caution et tout. Donc j'ai lâché l'affaire avant de revenir quelques années plus tard. Et toi, Antoine ?
Moi, mon premier contact, du coup, bah, c'est différent de vous. Hein. Ce n'était pas pour faire de la radio. Moi, c'était en tant qu'auditeur. C'était en 2003 quand je suis arrivé sur Brest pour les études. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard en fouillant ce qu'il y avait sur la bande FM à Brest. Comme je venais de Quimper, je découvrais de nouvelles stations. Et là, j'ai découvert Radio U et c'est, ça a vraiment été un déclic. Quand j'ai écouté ça, j'étais vraiment en mode « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'est vraiment impressionnant, t'as les gars qui font ça, t'as vraiment l'impression de, à la fois de l'amateurisme et du professionnalisme. Et ça m'a plu, j'ai adoré écouter, j'ai écouté ça pendant toutes mes études, tout le temps où j'étais à Brest, j'écoutais plus aucune autre radio. Et puis je me suis dit, en fait, dès le début, je me suis dit, putain, j'aimerais tellement faire de la radio. Et puis il m'a quand même fallu près de 15 ans avant de venir réellement pousser la porte de Radio U pour passer derrière un micro.
C'est bien, c'est rapide, 15 ans.
Faut laisser mûrir les choses.
C'est ouais, ça.
Bien sûr.
C'est ça. Mon projet, il a mis 15 ans, tu vois, à mûrir dans ma tête.
Et puis il n'y a aucun vrai Brestois de naissance ici autour de la table.
Non, effectivement.
Et ouais.
C'est vrai ça.
Premier constat.
Les imposteurs quoi.
Ouais, complètement, complètement.
On a totalement parasité une radio brestoise. Et ouais, on n'est pas d'ici.
Est-ce qu'on commencerait pas par écouter un petit son, non?
Mais
c'est
si,
pas ça qu'on avait
prévu. Et tu vas nous en parler d'ailleurs parce que tu as participé à la production de cette série puisque Radio U fête ses 20 ans, mais il y a un autre anniversaire en cette rentrée 2021.
Ouais, un peu plus vieux, léger, léger. C'est l'UBO qui fête ses 50 ans. Et donc, on s'est associé avec eux pour produire une série de 13 épisodes qui s'appelle 20 petites histoires pour 50 ans d'UBO. Alors pourquoi 13 épisodes pour 20 histoires? Parce qu'il y a des histoires qui sont dans le même épisode. Donc ça arrive d'avoir deux personnes et on avait envie de vous faire écouter aujourd'hui ou réécouter pour les aficionados de cette série qui est diffusée chaque mercredi à 17h30, le premier épisode avec le témoignage quand même d'un ancien très célèbre de l'UBO qui d'ailleurs quand il était étudiant ici, vous l'entendrez, c'était pas encore l'UBO, c'était un collège universitaire et c'est Kofi Yamian qui a entre autres été député du côté de Châteaulin, mais aussi ministre de l'intégration Mitran, François Mitran.
François Mitterrand.
C'est ça. Donc on peut vous laisser écouter ça, et je pense que pour tous les vrais Brestois, vous allez reconnaître assez facilement le générique, mais je le dis quand même, c'est Stand By Patrol, parce qu'on s'est aperçu que le chanteur Poupa Jim a fait des études aussi du côté de l'UBO. Vingt petites histoires pour 50 ans d'UBO. En 2021, l'Université Bretagne Occidentale fête son demi-siècle. Nul ne peut dire ce qu'elle sera dans 50 ans, ni même si les universités publiques existeront encore, mais en cette année 2021, il est possible d'entendre des récits, des souvenirs, des témoignages d'hommes et de femmes qui ont passé de quelques mois à de nombreuses années dans cette université. De réforme en réforme, la petite université mal logée des débuts n'a cessé de s'agrandir, de voir le nombre d'étudiants et d'étudiantes d'ici et d'ailleurs s'accroître. De voir aussi les formations les plus diverses s'ouvrir et des postes se fermer. Celles et ceux qui prennent ici la parole ont rarement une page Wikipédia à leur nom qui signalerait leur rôle dans l'université. Mais cette université, ils et elles l'ont fait vivre, la font vivre au quotidien. À partir du 6 octobre, retrouvez chaque semaine un des 13 épisodes de cette série. Épisode 1, vivre en cité U, dans une ville sans U. En 2021, dire cité universitaire, cité U ou restaurant universitaire, resto U, c'est dire qu'on est dans une ville où il y a une université. Mais avant 1971, à Brest, ce n'était pas le cas. Il était possible d'être étudiant, de vivre en cité universitaire, dans une ville sans université. Mais où il y avait, curieusement, des collèges universitaires. Il n'y avait plus de GI dans les rues de Brest, mais encore des baraquements pour abriter population et institutions. La guerre n'était pas si loin, la reconstruction de la ville n'était pas achevée. La pointe bretonne comptait à ce moment-là fort peu d'étudiants non finistériens, fort peu d'étudiants étrangers, que l'on appellera en 2021 des étudiants internationaux. Camille Kerlan, qui a passé son enfance dans le sud Finistère et qui était étudiant au collège universitaire scientifique, devenu maintenant éminent virologue, a écrit deux petites histoires qui racontent ce qu'il appelle en 2021, avec humour, des rencontres interculturelles. Notamment avec Kofi Yamian, qui lui a grandi au Togo et qui fera une belle carrière politique, maire, puis secrétaire d'État, conseiller régional, député.
toujours fidèle au Finistère. Écoutons d'abord la première de ces rencontres entre une promotion et un enseignant. Toulouse, ô Toulouse. La rentrée 1968 fut tardive. En effet, il y eut tout de même des examens à faire passer, la première session en septembre, la seconde à suivre, sans compter les inévitables oraux de rattrapage, le tout sous l'œil bienveillant des enseignants. Mais un jour de novembre, l'un des trois grands amphithéâtres de la faculté de sciences était plein. Il accueillait une classe de troisième année. Ceux et celles qui commençaient une licence de biologie. Rien n'avait encore changé par rapport à l'année d'avant. Les jupes étaient au moins aussi courtes, ce qui ne gênait strictement personne. Toutefois, on était au Bouguin, et pas à l'Odéon. Alors, avant l'heure fixée pour le début du cours, tout le monde était sagement assis devant son grand bloc-notes flambant neuf et, cigarette bien éteinte, attendait le professeur dans le plus grand silence. C'était le premier cours d'une nouvelle matière, la physiologie animale, et c'était un nouveau prof, un nom jusque-là inconnu, à Brest à consonance plutôt française que bretonne. Il se fit un peu attendre. Il nous apprit plus tard qu'il s'était perdu en route, mais que ce n'était pas à cause de la brume de mer. La cinquantaine environ, une main dans la poche, il avait une allure des plus décontractées. Contrairement à ses collègues, il n'avait rien à déballer. Il prit son temps, jeta un coup d'œil circulaire sur l'amphithéâtre où l'attention était on ne peut plus maximale et eut une mimique pouvant laisser penser qu'il était satisfait. Lorsqu'il commença à parler, ce fut du délire. Il y eut tout d'abord un moment de stupeur. Tous et toutes les élèves ouvraient de grands yeux ronds, puis il y eut de l'agitation, des éclats de rire et cela se transforma en un début de chahut général. Bien évidemment, à la sortie du cours, toutes les conversations ne portaient que sur ce curieux bonhomme qui donnait presque l'impression de chanter quand il ouvrait la bouche. Dans l'amphithéâtre, il y avait des gens venus du pays Bigoudin, de Moëlan, Quimperlé, Trégarvan, Plougonvert, Duhaut, Calac, Plounévé-Mouédec, Plouat, et même de Recouvrance, oui, même de Brest. Une bonne partie étaient des bretonnants, mais aucun d'entre eux n'avait jamais entendu pareil accent. Heureusement, dans la promotion, il y avait deux enfants de pieds noirs qui avaient un peu circulé avant de venir habiter à Lambé pour l'une, à Saint-Marc pour l'autre. En rigolant, tout autant que les autres, ils expliquèrent qu'à Toulouse, tout le monde ou presque parlait de cette façon et que pour les étrangers, il fallait un moment pour s'y habituer, mais on s'y ferait.
Du rififi dans les cités U. En ce temps-là, à Brest, on ne badinait pas avec la morale sur le campus universitaire. La cité des filles de Kerguat était sévèrement interdite à toute intrusion masculine. Non mais où irait-on si on laissait les garçons entrer ? Cela prit quelque temps, mais les vagues du tsunami qui avait déferlé l'année précédente sur le quartier latin finirent par atteindre les hauteurs des rives de Lappenfeld. Alors il fallut bien assouplir quelque peu la réglementation et il fut décidé qu'un frère aurait le droit de venir voir sa sœur à la cité U. Il était même plus ou moins admis qu'il pouvait monter jusque dans sa chambre, dans la journée bien entendu. Il va de soi que le visiteur qui frappait à la porte se devait de laisser à la conciergerie une pièce d'identité attestant autant que possible qu'il était bien le frère de sa sœur. Pas une tâche facile, et il devint encore plus difficile de démêler la situation particulièrement embrouillée des familles nombreuses. Il s'avéra en effet que certains se trouvèrent une deuxième sœur, voire une troisième, à des étages différents. Au Bouguin, il y avait aussi un concierge, un bon bougre, qui assurait le minimum, mais ne se sentait pas du tout une vocation de shérif. Il n'eut pas d'objection à la circulation de filles dans la résidence. La seule conséquence fut l'obligation que les garçons se donnèrent eux-mêmes de porter au minimum un pyjama ou un maillot de bain quand ils mettaient le nez dans un couloir. Jusque-là, ils ne trouvaient rien de mieux que de laisser leurs vêtements dans leur chambre quand ils allaient prendre une douche. Le local des douches était en effet installé au milieu du couloir. Tout se passa bien, l'évolution était en marche et on courait à toutes jambes vers un monde meilleur. Le seul hic apparut à l'étage de Kofi. Le troisième peut-être, en tout cas dans les hauteurs. Kofi y avait sa chambre, tout au bout du couloir, avec vue lointaine sur la rade. Où était mouillé le A776, c'était une époque où il n'y avait pas que la Jeanne d'Arc. Kofi ne voyait pas pourquoi il devait changer quelque chose à ses habitudes. Et il continua à aller prendre sa douche et à revenir en serviette sur l'épaule. Certaines filles
rares, firent demi-tour en le voyant débouler ainsi dans le couloir. Mais la majorité opta pour le laisser passer en se plaquant contre le mur. L'ennui était que Kofi était de stature plutôt imposante et que, étant donné la largeur du couloir, on ne pouvait le croiser que si lui aussi y mettait du sien. Kofi était bien entendu très heureux de rencontrer du monde, mais il était alors hors de question pour lui de croiser quelqu'un, connu ou pas, à cet endroit-là ou ailleurs, sans se dire bonjour. Et avec Kofi, se dire bonjour, cela pouvait prendre 10 bonnes minutes.
Moi, j'avais l'habitude de ça. Je me douchais tous les jours, comme encore aujourd'hui. Tous les jours, je me douchais, donc je partais de ma chambre, qui était tout à fait au bout, côté mer, la douche étant au centre du bâtiment. Et ben oui, je mettais ma serviette sur l'épaule et j'étais en culotte normale, hein, j'avais mon slip et j'allais me doucher puis revenir. Mais la douche prenait un certain temps parce que tous les gens que je croisais dans le couloir, il fallait que je leur parle. Tout le monde me connaissait, j'étais le seul étudiant noir de toute l'université de Brest. Qui à l'époque n'était d'ailleurs pas une université. Moi, j'étais au collège scientifique universitaire et j'avais des copains qui étaient au collège littéraire universitaire. Il y avait une petite école de médecine, il y avait Subdeco qui était Place de la Liberté. Là. Voilà. Et voilà. C'était une belle période de ma vie. J'ai beaucoup aimé ça. Et évidemment. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait des filles qui arrivaient dans les couloirs, mais je n'allais pas bouleverser ma vie pour ça. Je continuais à... D'ailleurs, j'avais rien à leur cacher, c'est pas... Donc voilà, rien n'avait pas non plus... D'ailleurs, personne, ni fille ni garçon, n'a trouvé à redire à ça. Bon, j'étais Kofi, quoi, voilà. Et j'ai passé là de belles années... et le concierge du Bougain, c'est très marrant parce que je l'ai retrouvé dans mes pérégrinations politiques, dans mes campagnes politiques, parce qu'en réalité il est de la circonscription dont j'étais devenu le député. Alors, il est de Plomodian, donc je l'ai revu avec son épouse, on a échangé, je suis allé boire un coup chez eux, ils sont venus manger chez moi, voilà, et on a évoqué effectivement toute cette période-là qu'on avait trouvée très belle, très très belle. On était jeunes, on était plein d'espoir. On allait renverser la table, on allait changer la société. Et puis voilà, voilà, on a contribué finalement à faire une société de moins en moins sociale. Et de plus en plus individuel. Nous, on y a participé aussi. Et voilà. Mais il faut pas regretter. C'était un moment où... C'était un temps où on était... C'était ce temps-là. C'était très bien. J'ai eu beaucoup de... Et je me suis fait beaucoup de copains à l'université, que je vois encore aujourd'hui. Lorsque vous partez de Brest, que vous dépassez le Fou, vous êtes au sud Finistère. Alors, et je me suis rendu compte que les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, qui sont dans le sud-est du département, du côté de Quimperlé, ou bien complètement à l'ouest, du côté de Pinmar, le pays Bigoudin et tout ça, pour eux, c'était aussi difficile de venir à Brest à l'université que moi de venir de Lomé. Et donc, je me suis dit... moi, je me suis battu hein, pour qu'il y ait le pôle du Sud à Quimper, pour rapprocher l'université des jeunes qu'elle doit instruire. Et donc, j'étais très fier le jour où Mitterrand, quand je lui dis « ce serait bien de venir inaugurer l'université de Quimper, parce que c'est le pôle universitaire de Quimper, parce que je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. Il m'a dit, banco, je viens. Tu me dis à quelle date c'est prêt, et puis je viens. Voilà. Et après, il est venu à Brest pour inaugurer aussi la faculté des lettres, parce que c'est un littéraire. Il aime les lettres. Voilà. Et voilà. Donc, pour moi, c'était important. Si les jeunes ne peuvent pas aller à l'université, que l'université vienne à eux. Et c'est pour le pôle de Quimper a été fait pour ça. Pour ramasser tous les gens de la périphérie sud du département qui pouvaient éprouver des difficultés de venir jusqu'à Brest. À Quimper, ils pouvaient rentrer chez eux tous les soirs, alors que venant à Brest, ils ne pouvaient plus. Il fallait qu'ils soient en cité universitaire, qu'ils aillent au restaurant universitaire, ce qui est bien d'ailleurs en soi, parce que c'est là aussi qu'on fait des échanges. Voilà.
Parce que c'est quand même ça qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est que vous qui aviez fait tant de kilomètres pour venir dans cette cité à Brest, vous fassiez aussi autant d'efforts pour que des jeunes du Finistère puissent rentrer tous les soirs chez eux et aller fréquenter une université. C'est quand même extraordinaire.
Oui, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'ils se plaignaient quand même. J'avais des copains bigoudins ici qui disaient « oui, mais je ne peux même pas rentrer chez moi ». Voilà. J'avais un copain concarnois, quand j'étais en maths sup, d'abord, qui était en lettres sup, et c'était la toute première année, au mois de, pour les fêtes de la Toussaint, en novembre. Il me dit, voilà, moi, je rentre chez moi que le week-end, et je vois que toi, tu ne peux même pas rentrer chez toi le week-end. Moi, j'aurais bien voulu rentrer chez moi tous les jours, mais je ne peux pas, je n'en rentre que le week-end. Eh bien, le week-end de la Toussaint, je t'amène chez moi. Ah bon ? Oui. Voilà. Le samedi arrivé, il me conduit à la gare routière, à Brest. Là. On monte dans le car, puis on roule. Je ne savais pas où on allait. On roule. Et arrivé à l'opérette, juste après Plougastel, il me dit, il faut que je te dise, je n'ai pas prévenu mes parents que je venais avec toi. Ça peut être difficile. S'ils me disent « on ne veut pas le voir chez nous », eh bien, je repars à Brest avec toi. Les étudiants africains de ce moment-là, quand ils arrivaient en France pour faire des études, ils étaient à Marseille, à Montpellier, à Bordeaux, à Paris, voilà. Et moi, le jour où le chef de la coopération m'a dit, voilà, vous avez le baccalauréat en mathématiques, je vous ai inscrit au lycée Kerichen à Brest, sous le numéro 220. Bon, je suis arrivé ici, j'étais le seul étudiant noir de tout Brest. Mais pourquoi ? Pourquoi Brest, j'ai cherché longtemps à comprendre jusqu'au jour où ça m'est arrivé. En réalité, le missionnaire qui m'avait envoyé à l'école était breton. Il était du fou. Oui, j'ai remarqué en tout cas que lorsque je circule à Brest aujourd'hui, je croise beaucoup de jeunes noirs.
Ouais.
À l'époque, c'était pas ça.
Ouais.
Donc, il y en a davantage, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, d'ailleurs, que ce seul étudiant noir de Brest que j'étais. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment sont-ils accueillis, leur cellule de vie, de formation, c'est l'université. Bien sûr. Donc, il faut que l'université leur fasse... leur construise des espèces de passerelles, de ponts d'or pour qu'ils se sentent bien avant qu'ils ne rentrent en ville pour voir, j'allais dire, le tout venant de la population. Et donc, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en vrai. Une fois, mon professeur de physique m'invite, il me dit « dimanche prochain, je t'invite à venir déjeuner chez moi. » Bien. Mon professeur de physique, que j'adorais, J'étais un excellent enseignant, mais vite à manger chez lui. Donc, j'y vais. Et je me dis, en me souvenant de ce que me disait mon père, tu ne dois rien faire qui fâche les gens. Moi, je suis un pauvre paysan. Je ne veux pas qu'on vienne me dire que tu as fait ça, que tu as fait ci, voilà. Alors, j'arrive là-bas et sa femme m'explique que d'habitude, elle-même était professeure. D'habitude, elle a une personne qui vient faire à manger. Mais ce dimanche-ci, j'ai décidé de faire à manger moi-même pour vous accueillir. Quel honneur! Bon. On se met à table, puis, arrivé à la salade verte, je découpe dans mon assiette une énorme limace. Voilà. Kofi, là, face à cette affaire-là, me viennent les explications de mon père et tout ça. Ils me disent, comme si tu mets la limace sur le côté, la dame, elle va se rendre compte, elle va être vexée, tu ne peux pas faire ça. Si tu la jettes par terre, quand ils vont nettoyer, ils vont la trouver, ils vont dire, voilà, ça doit être la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait, vous croyez? J'ai enveloppé la limace dans une feuille de salade verte et je l'ai avalée sans mâcher. Comme ça, la maîtresse de maison n'a rien vu. Ça aussi, ça fait partie des efforts qu'on doit faire pour être accueilli. Je n'ai jamais été fâché avec ce monsieur, ni avec sa femme. Et je continue à l'admirer comme ça a toujours été le cas. Voilà. Beaucoup d'étudiants, mais on ne demande pas à tout le monde d'avaler des limaces, hein, mais il arrive un moment où, effectivement, il faut les avaler. Et en entrant en politique, j'ai appris à avaler plus gros. J'ai avalé des couleuvres, j'ai avalé peut-être même des bois. Quand j'étais au gouvernement, j'étais le seul scientifique parmi les ministres avec Hubert Curien, qui était à l'époque ministre de la recherche. On a eu beaucoup de discussions là-dessus, où je lui disais, mais quand même, au lieu de dire aux jeunes chercheurs qui arrivent, par exemple en matière de médecine, vous allez, cette année, c'est l'année du cancer, vous allez tout chercher dans le cancer et tout ça. Cette année, c'est l'année de l'environnement, vous allez tous aller. Pourquoi on ne les laisserait pas, tout seuls, décider de ce qu'ils veulent faire? Ils vont dedans, on leur donne 2 ans, par exemple, et si, au bout de 2 ans, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils... ou ils n'ont pas vraiment vu le chemin qu'ils veulent changer, bien qu'ils changent, mais... Moi, je continue à penser que la recherche serait encore plus riche. Si on laissait les jeunes chercheurs, nos intelligences là, qui arrivent à l'université, partir comme ils ont envie, ne pas leur fixer des trucs avec des caps et puis des butoirs. La recherche, c'est absolument nécessaire. J'ai vu sur la côte ouest des États-Unis beaucoup d'étudiants français qui partent là-bas. Parce que là-bas, on leur laisse la liberté de chercher. Et la France n'a pas un grand territoire, n'a pas des grandes ressources, voilà, mais elle a des intelligences. Mais allons jusqu'au bout. C'est avec ça qu'on va se placer au top dans le concert des nations. On ne peut pas se permettre de faire à peu près. Donc, voilà, moi, je soutiens les chercheurs dans tous les secteurs, tous azimuts. Tous, ils sont bons, ils doivent aller jusqu'au bout de leur ambition. C'est pour la France.
La semaine prochaine, retrouvez l'épisode 2 de notre série Collège, fac, université, passer de l'un à l'autre sans le savoir. Les entretiens et les prises de son ont été réalisées par Annick Madec pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par Radio U. Wicked, 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 wicked